Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, mercredi 6 avril, pas de sortie nationale, mais un retour du côté de l'Italie, de son cinéma bis, déviant, un peu bizarre. Pas de doute, vous êtes bien sur Oblique. Bonjour Justine.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Victor, bonjour Yann. Alors, quel est ce sommaire italien du coup, Victor?
Moi de mon côté, ce sera encore un retour à Orgie Filmique avec toi-même et Alain Petit qui parle de Giallo.
Et toi, Yann?
Pour l'audio oblique, ce sera Ritz Ortolani.
Ah oui, donc oui, bien sûr, parce que c'est le compositeur de La Longue Nuit de l'Exorcisme de Lucio Fulci, qui est donc diffusé le 8 avril à Utopia. Donc je vous en parle juste après l'agenda local de Justine.
Voilà. No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price. Bonjour tout le monde, au programme cette semaine. Jeudi 7 avril à 20h15, le cinéma Diagonal projettera le film Taxi Driver de Martin Scorsese dans le cadre du cycle western intitulé Yeehaw. La séance sera animée par Céline Saturnino, enseignante et docteur en cinéma, et Hervé Mayer, enseignant-chercheur en civilisation américaine et cinéma à l'université Paul Valéry. Pour le vendredi 8 avril, juste un mot pour vous rappeler qu'à 20h15, au Cinéma Utopia, aura lieu la séance oblique numéro 4, avec la projection du film La Longue Nuit de l'Exorcisme de Lucio Fulci. Mais je ne m'étends pas plus sur le sujet car nous en parlerons tout au long de l'émission. Le dimanche 10 avril, le CGR de Lattes nous propose un marathon Les Animaux Fantastiques, à l'occasion de la sortie du dernier opus de la saga. Au programme, à 11h40, la projection du film Les Animaux Fantastiques, à 14h40, le film Les Crimes de Grindelwald et à 17h40, le petit dernier, Les Secrets de Dumbledore. Lundi 11 avril, à 13h50, le cinéma Diagonal nous propose une séance unique du film Le Violent de Nicolas Ray. Un film noir des années 50, profond, romantique et mélancolique. Toujours lundi 11 avril, le cinéma Utopia organise une soirée Kenneth Anger à partir de 20h. Au programme de cette soirée, la projection de trois films de Kenneth Anger, Lucifer Rising, Invocation of My Demon Brother et enfin Scorpio Rising. La séance sera suivie d'un concert en salle Jean Moulin à l'université Paul Valéry. Mardi 12 avril à 20h45, rendez-vous au cinéma Le Sémaphore à Nîmes pour la projection du film F for Fake de Orson Welles. Un film associant scènes documentaires et séquences fictionnelles pour parler avec malice de magie, de mensonges, de peinture et finalement de cinéma. La séance sera présentée par Hervé Pichard, responsable des acquisitions et chef de projet des restaurations de films à la Cinémathèque française. Et enfin, jeudi 14 avril à 20h, le ciné Mistral Frontignan-Lapeyrade nous propose une séance spéciale du film Media Crash réalisé par Luc Herman et Valentine Auberti. La projection se fera en présence de Cécile Hautefeuille, journaliste pour Mediapart. Voilà, l'agenda culturel touche à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Justine. Et tout de suite, La Longue Nuit de l'Exorcisme de Lucio Fulci. Ne vous fiez pas au titre racoleur et mensonger, hein. La Longue Nuit de l'Exorcisme ne contient ni longue nuit, hein, le film se déroulant le plus souvent en plein jour, ni exorcisme, tout au plus une sorcière désignée comme telle par les gens du village, décrit par le cinéaste. Alors, la raison en est simple, hein, le distributeur français de l'époque a tenté de capitaliser sur le succès de l'Exorciste réalisé en 73. Si le film de Lucio Fulci date, lui, est antérieur, date de 72, il n'est sorti que dans les salles françaises en mars 78. Alors, très apprécié des amateurs de cinéma bis, hein, Lucio Fulci, bon, il faut le dire, est encore méconnu du grand public, hein, même cinéphile, disons, hein, parce que comparé à Dario Argento et Mario Bava, qui sont largement plus reconnus au-delà du cercle d'initiés. Étrangement, il est célébré par les amateurs de films d'horreur à la fin des années 70, avec L'Enfer des zombies, suivi de L'Au-delà, La maison près du cimetière et Frayeur. Repoussant les limites du gore, hein, dans ses pires retranchements, au point que certains le qualifient à l'époque de pornographe de l'horreur, Lucio Fulci a pourtant signé ses meilleurs films, on va dire, entre la fin des années 60, moi je dis que ça commence avec un western, et le milieu des années 70. La longue nuit de l'exorcisme, hein, dont le titre original pourrait se traduire directement par « Ne torturez pas un canard », est souvent considéré comme un giallo, ou thriller italien, genre caractérisé, je le répète, par des intrigues alambiquées où un tueur assassine des victimes pour des raisons qui relèvent soit d'un trauma initial, soit pour des raisons financières. Ce qui est le cas des deux giallo précédents de Fulci, hein, Perversion Story et Le Venin de la Peur, deux œuvres majeures dans la carrière du cinéaste. Mais La longue nuit de l'exorcisme est encore un cran au-dessus en termes qualitatifs, hein, et on peut aisément le considérer comme le plus grand film du cinéaste, qui s'empare en surface du genre, donc le giallo, pour mieux le subvertir ou plutôt le détourner. Ce thriller rural est avant tout un grand film politique, hein, portrait quasi naturaliste d'un petit village dépassé par l'urbanisation des grandes villes et le progrès sous l'emprise des croyances religieuses. Alors dans ce cadre très asphyxiant, proche parfois du western, hein, l'intrigue adopte une structure de Voodoo Night classique, hein, ce qui le rapproche du giallo, mais avec quelque chose de plus mélancolique et même cruel. Les victimes, là, ne sont plus des jolies filles aux tenues légères, mais des enfants, ou plutôt deux jeunes garçons brutalement assassinés au cœur d'un village de l'Italie du Sud. Alors, on a un journaliste aidé d'une jeune femme libérée, d'un curé beau gosse qui mène l'enquête, mais la tension monte au sein de la communauté où les habitants, de plus en plus terrorisés, se mettent à désigner arbitrairement des coupables. Alors, l'originalité de ce film presque choral, puisqu'il n'y a pas de personnage principal, vraiment, qui puise son inspiration du côté du néo-réalisme, hein, tient à la galerie de personnages tous plus troubles les uns que les autres. Alors, en témoigne, j'ai choisi un extrait, cette séquence très ambiguë, où Barbara Boucher, une des actrices principales du film, nue, provoque un jeune garçon. Alors, avec une lecture de grille contemporaine, la scène ne passerait plus du tout, vite considérée comme, on va dire, un pédophile, entre parenthèses. Mais ce n'est pas du tout le cas dans le film, en fait, hein. Il s'agit plus, pour le personnage incarné par Barbara Boucher, de provoquer un jeune garçon qui n'est pas si innocent que cela.
Dis-moi, c'est la première femme nue que tu vois ? Non ? Raconte-moi. Combien de filles tu as déjà eues ? Hein ? Beaucoup. Non, tu es un menteur. Tu m'aurais dit une ou deux, je t'aurais peut-être cru, mais quand tu dis beaucoup, alors c'est que c'est faux. Tu es un grand vantard. Allons, regarde-moi, je te plais. Tu aimerais qu'on fasse l'amour ? N'aie pas peur, réponds-moi.
Transgressif et mélancolique, alors toujours sur la brèche entre puritanisme assumé et critique de ce même puritanisme, La longue nuit de l'exorcisme laisse une impression d'amertume, de profonde tristesse. Fulci laisse de côté ses expérimentations visuelles, ses délires psychés, surtout visibles dans le film précédent, Le Venin de la Peur, pour une mise en scène frontale, crue, d'une violence assez inouïe pour l'époque. Hein. On sent Fulci attiré presque de façon animale, primaire, par la chair lacérée, par les détails morbides. Ce film annonce même avec beaucoup plus de maîtrise, hein, les débordements graphiques dont il fera preuve moins d'une décennie plus tard. Mais ici, toute l'horreur visuelle ou non, hein, trouve une parfaite justification pour ce qui est un immense film tout court, éloigné du ce qu'on appelle le cinéma bis traditionnel. Alors, je le répète, le film est donc diffusé à Utopia à 20h15 dans le cadre des séances obliques. Donc, j'aurai l'honneur de le présenter. Et puis, comme d'habitude, il y aura des cadeaux à gagner, je ne sais pas, des DVD, des places de ciné, affiches et plein d'autres choses inutiles mais si précieuses. No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they... Et pour poursuivre avec l'Italie, bah, je laisse la parole à Victor lors de la rencontre, bah, c'est à la fac de lettres, ça fait bien, ça fait avec Alain Petit et puis moi-même en fait.
Et puis toi-même. Oui, c'est donc un extrait de circonstance fraîchement enregistré donc, au festival Orgie Filmique que nous organisions il y a peu. Et c'était justement donc, lors d'une conférence qui parlait de cinéma populaire italien et plus spécifiquement dans l'extrait qu'on va entendre de Giallo, donc un genre au sein duquel on peut classer le film de notre prochaine séance oblique, La Longue Nuit de l'Exorcisme, même si clairement le film n'est pas l'archétype du genre. Dans cet enregistrement, nous allons donc entendre un échange entre notre bien-aimé gourou et présentateur Emmanuel et son père spirituel, on va dire ça comme ça, Alain Petit. Mais alors, qui est Alain Petit ? Eh bien, c'est un éminent expert du cinéma de genre, disons un historien du cinéma populaire, grand défenseur du western et de jazz franco, entre autres choses. Il a notamment fondé un fanzine comme Le Masque de la Méduse, il a participé à une multitude d'autres fanzines et de revues, la plus connue reste Mad Movies. Et de manière générale, il a œuvré de manière assez importante à la découverte du cinéma de genre en France, notamment au travers de son implication dans l'émission de Jean-Pierre Dionnet, Cinéma de quartier sur Canal+. Alain Petit et Emmanuel avaient donc, lors du festival, la lourde tâche d'offrir en une heure un panorama assez complet du cinéma populaire italien, en passant par le western, le polar, la comédie sexy et bien évidemment le giallo.
Expliquer ce que c'est que
j'allais,
ce que je voulais,
je
vais te laisser expliquer. L'angoisse
qui coupe le souffle.
Jaune, c'est la couleur jaune qui entoure les bouquins policiers.
L'horreur qui glace le sang.
Un peu l'équivalent de la série noire en Italie, mais tous les bouquins étaient jaunes. Avec un découpage, avec un dessin qui représentait le bouquin. Donc par définition, c'est devenu un giallo, c'est un polar.
Et c'était des romans de gare qui ont été édités au début des années 20, aux éditions Mondadori. Et en fait, le cinéma a mis du temps, parce que ces romans ont été édités des années 20, au début des années 60.
Très populaire.
C'était très populaire, oui, très populaire en Italie. Et le giallo va reprendre un peu l'idée de ces romans et aussi d'un courant allemand qui s'appelait les crimis. Alors on va pas avoir le temps de parler des crimis, sinon on va dire que c'est l'ancêtre un peu du giallo d'un point de vue cinématographique. C'est tout ce qu'on peut dire parce que sinon on va déborder. Mais alors voilà, en 70 le giallo apparaît. Donc comment on définit un giallo ? Donc
giallo, voilà, alors c'est assez difficile parce que c'est à la fois un truc policier, hein, où il y a un assassin, évidemment mystérieux, qu'il faut découvrir. Et les influences des gens qui ont fait les premiers giallos, en fait, c'est plutôt la littérature policière américaine, avec des auteurs comme William Irish. C'est-à-dire, c'est des romans qui se situent à la lisière entre le policier et le fantastique. Il y a toujours des personnages qui ont des visions, qui ont des visions prémonitoires, qui ont un don de seconde vue. Voilà. Il y a toujours un petit côté quand même qui louche vers le fantastique, ce qui fait que en fait, le premier qui s'est fait connaître avec l'oiseau au plumage de cristal, Dario Argento, il n'a jamais caché son intérêt pour ses romans américains. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure que L'oiseau plumage de cristal était un piratage.
Alors, c'est pas un piratage, c'est librement inspiré d'un roman de Frédéric Brom qui s'appelait La Belle et la Bête, où il reprend un peu. On va pas raconter le film, mais dans La Belle et la Bête, c'est quelqu'un qui assiste à un meurtre de retour d'une cuite dans une rue. Et il est pas sûr de ce qu'il a vu le lendemain, c'est-à-dire que sa mémoire, elle défaille. Et dans le Argento, c'est une question de perception. D'ailleurs, c'est souvent une question de perception dans le cinéma d'Argento. Alors donc, Argento ouvre un peu la brèche. Alors j'ai aussi que le giallo, c'est pas uniquement ça, je pense que c'est aussi une esthétique. C'est vraiment une esthétique.
L'esthétique de Mario Bava, il faut parler des deux premiers giallos, qui sont avant la vague,
C'est-à-dire, il y a la fille qui en savait trop, qui est un film magnifique, qui est aussi une histoire d'un personnage qui pense avoir vu des choses parce qu'elle croit qu'elle a fumé une cigarette après, voilà, le crime. Et le deuxième, c'est Six femmes pour l'assassin, où là, il y a une esthétique, il y a des couleurs, il y a une mise en scène absolument fabuleuse, quoi. Donc, et Dario Argento n'a jamais caché son immense admiration pour Mario Bava, qui était, il faut bien le rappeler, avant d'être réalisateur, c'était un des plus grands chefs opérateurs, directeur de la photo.
Et vous avez vu comment l'assassin a rangé cette gosse? Il doit avoir appliqué un fer rouge sur son visage. À mon avis, cet homme est un fou.
Ou un maniaque sexuel qui agit sous l'impulsion de la furie homicide.
Il s'attaque uniquement à des jolies filles.
En effet. Il est possible que ce soit la beauté féminine qui lui fasse perdre la tête et qu'il pousse à tuer, qui sait.
Mais toi, tu n'as pas peur? Essaie de comprendre. Isabelle et Peggy habitaient avec toi. Isabelle a été tuée. Et Peggy.
Il y avait aussi un fétichisme des titres à rallonge dans le cinéma, dans le giallo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms d'animaux, déjà. On peut citer l'iguane à la langue de feu. Qu'est-ce qu'il y a? Plus venimeux que le cobra. Bon, il y avait quatre mouches de bouillon. Enfin, voilà. Il y avait énormément de
papillons aux ailes ensanglantées.
Et il y avait une sorte de délire autour des titres. Mais ce délire autour des titres, on le retrouve, je trouve, dans les films, avec souvent des ambiances un peu folles, à la limite des fois du surréalisme. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas un giallo pour son intrigue rationnelle. Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce cinéma-là, qui est pour moi un petit peu fou.
Moi, mon titre préféré, c'est « Ton vice, c'est une chambre scellée dont moi seul ai la clé ».
Vous vous droguiez aussi avec celle-là? C'est votre vice et votre malheur. Il se lit clairement sur votre visage.
Les crimes sexuels les plus impitoyables.
Assassin! Espèce de salaud! Mais avoue donc, c'est toi l'assassin! Inspecteur, il faut l'examiner. C'est un impuissant.
Salaud!
C'est pour ça qu'il hait les femmes. Il les tuerait toutes parce qu'il n'est pas capable d'en avoir une seule!
Je pense qu'entre 70 et 75, qui est vraiment la période faste, il a dû avoir au moins une centaine. C'est un peu, je dirais, finalement, c'est Argento qui ouvre le bal et qui le ferme aussi. Et il le ferme avec Les frissons de l'angoisse, qui est un peu... il en a eu après, entre 75 et, et 80, il en a eu pas mal, mais quelque part, il signe le giallo définitif avec Profondo Rosso.
Tutto quanto è nella villa. Nessuno potrà e dovrà sapere.
Si vous souhaitez découvrir du giallo, ou plutôt des gialli comme disent les experts, nos copains d'Artus Film en ont édité un sacré paquet, alors n'hésitez pas à vous procurer L'œil du labyrinthe, L'appel de la chair, La dame rouge tue à cette fois, ou bien La mort caresse à minuit. Et pour aller toujours plus loin, chez Artus, un livre très complet sur le sujet, Une étude en jaune, rédigée par Frédéric Pizzoferrato. Et puis je crois que toi, tu as une préférence pour un bouquin de chez Rouge Profond sur le sujet.
Oui, un bouquin de Alice Laguarda sur le giallo, et qui est absolument formidable. Et on termine avec Audioblique, toujours et encore avec l'Italie, avec le musicien Riz Ortolani.
Un petit aperçu aujourd'hui sur le compositeur Riz Ortolani, très très prolifique compositeur. Il est né en 1926, mort en 2014, donc à un âge canonique. Donc il y aura juste deux extraits de films notoires et puis une contribution quand même très oblique qui nous occupera un petit peu plus sur la deuxième partie de la chronique. Donc longue carrière, hein, plus de 200 films dont il va signer la bande originale, des années 50 aux années 2000. En Italie, il passe sa vie artistique et personnelle en Italie. Et ses débuts professionnels, on le voit diriger un orchestre de jazz à Rome. Et cette influence, le jazz, est très forte dans un des premiers films dont il signe la musique. C'est un excellent film, c'est le film de Dino Risi en 1962, Le Fanfaron. Donc ça, c'est en 1962, hein, Le Fanfaron de Dino Risi. Et suivront tout un tas de contributions au cinéma, surtout en Italie. Donc des années 60 ou 2000, on a à peu près un panel pléthorique de réalisateurs importants des années 60 aux années 2000. Antonio Margheriti, Damiano Damiani, Tinto Brass, Lucio Fulci, bien sûr, et j'en passe. Et rarement en dehors de l'Italie, il y a une contribution pour un film en deux volets de Robert Siodmak, hein, c'est pour la conquête de Rome, mais c'est vraiment à la marge. Plus tard, on reprendra, ces musiques seront reprises dans des films connus. Il y a Kill Bill, il y a Drive, mais là, on n'est plus dans la bande originale. Disons que c'était des reprises qui viendront plus tard. Il aura exploré tous les genres musicaux pour tous les genres cinématographiques. Et on va écouter un deuxième extrait dans une veine plus classique, mais digne. Vraiment, là, il y a la classe d'un Ennio Morricone. C'est pour un excellent film de Damiano Damiani, très politique. C'est la confession d'un commissaire au procureur de la République.
Donc, confession d'un commissaire au procureur de la République, sacré titre, qui sera disponible, enfin visible en fait, au cinéma Utopia à partir de notre prochaine Gazette, donc du coup mi-avril.
Oui, voilà, donc très, très sacré titre, mais tu l'as bien dit, puis sans te tromper, c'est quand même pas mal. voilà, donc ça c'était le deuxième extrait des musiques de Ritz Ortolani. Et voilà, on en vient un petit peu à la phase plus oblique. C'est un film qui sort du lot hein, pour son caractère plutôt extrême, avec une bande-son très curieuse, un peu décalée. C'est Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, ça date de 1979. Alors Ortolani n'est pas le premier à explorer une veine un petit peu fleur bleue pour un film d'horreur, mais là il pousse quand même assez loin le caractère printanier, voire même un peu sirupeux.
Thank you.
c'est quand même assez remarquable hein, comme thème principal d'un film assez extrême en termes d'anthropophagie, hein, particulièrement atroce. On va écouter autre chose, hein, une pause assez funky, ça se passe dans la savane. Alors c'est peut-être avant ou après, je sais pas, une forme de goûter anthropophage. En tout cas, c'est très joyeux, ça s'appelle Relaxing in the Savannah. Voilà, et pour finir, quand même, bah, quelque chose qui peut faire un peu peur, un peu de stress, et en fait même pas, parce que ça pourrait, mais il y a une machine qui fait ping, ou plutôt piou-piou, et c'est Massacre of the Troop, mais bon, voilà, vous allez écouter.
Et avant de vous quitter, hein, Oblique vous donne l'occasion, chers auditrices, auditeurs, de gagner une place de cinéma Utopia bah, en répondant à la question suivante. Quel western de Lucio Fulci a pour interprète principal Franco Nero? Voilà. Un peu de recherche sur Internet et à mon avis, c'est pas très dur. Hein. Ce sera le premier qui va répondre qui aura la place. Hein. Alors, pour gagner la place, il vous suffit de répondre au 3615... non, je déconne, pardon. À la boîte mail suivante, oblique ciné, donc O en minuscule, hein, oblikcine, @gmail.com. Voilà, la semaine prochaine, bah, il sera question certainement du film, du dernier film d'Amaguchi, et puis, puis après, on verra pour le reste. Voilà, je vous dis au revoir.
Salut, bonne nuit. Semaine.
Au revoir. Voilà. Au revoir.
Et toute l'équipe se joint à moi pour remercier Adeline à la technique, et puis les cinémas Utopia et Diagonale, Divergence, Artus Film, et donc bah vous trois, Justine, Yann, Victor.
Merci à toi. Merci,
merci à toi aussi.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.